Rouge avec Marie Lozier, bonjour.
Bonjour.
Pour Peaches Goes Bananas. Et en plus, il y a le soleil avec nous. Vous êtes présente pour ce film qui sort dans plein de salles en Suisse romande, qui sera aussi à Fribourg. Et ce film, c'est consacré à Peaches. Mais en même temps, vous l'aviez rencontré il y a tellement d'années. Pourquoi ce film sort-il maintenant?
Ça a pris 17 ans en tout.
Donc, gestation.
Voilà, mais pour moi, c'est une... Enfin, je ne savais pas, quand j'ai rencontré Peaches en 2006, je ne savais pas du tout que je ferais un long métrage. Je ne savais même pas que ce serait un film. J'étais en tournage avec Genesis Peerage pour mon premier long métrage, The Ballad of Genesis and Lady J. Et puis, ben, ça, cette rencontre s'est faite au cours de ce voyage avec Genesis à Bruxelles. Et Peaches est arrivée dans le couloir alors que je filmais Genesis, ce qui se retrouve 17 ans plus tard dans le film, justement. Donc, ce que je trouve très beau pour moi, parce que c'est comme si les films se parlaient et s'entrechevaient. Mais j'ai jamais pensé à, ni à la durée d'un film, ni la longueur d'un film. Et je pense, vu l'économie et la façon de fabriquer mes portraits et mon cinéma, il fallait le temps que ça prenne, si ça devenait un long métrage, ce qui a été le cas. Et je pense qu'aussi beaucoup, le temps raconte le cinéma pour ma part, pour construire ces portraits. Et cette amitié s'est construite au fur et à mesure, comme toute amitié. Et c'est la confiance qui a mis en place aussi des temps de tournage qui se sont faits avec le temps et parfois avec des arrêts. Bien sûr, parce qu'il y avait d'abord la vie, je travaillais à plein temps. Peaches avait aussi beaucoup d'autres choses dans sa vie, comme la mort de sa sœur, la famille, ses nouveaux albums. Et puis, on n'était pas toujours dans les mêmes pays. Et j'enchevêtrais aussi d'autres films. Donc, le film a pris beaucoup de temps. Et quelque part, je trouve qu'aujourd'hui, c'est important parce que ce temps a permis de raconter aussi cette histoire.
Marie, là, vous avez déjà... spolier, comme on dit maintenant, plein de mes questions, mais je vais rebondir sur tous vos propos. En particulier, cette longue amitié, cette longue rencontre successive au fil du temps avec Peaches, 2006. Mais en 2011, il y avait déjà eu un film, primé à Berlin. Donc c'était déjà l'avant-goût de ce qui sort aujourd'hui.
Je n'en avais aucune idée parce que j'avais fait énormément de films à New York, des courts-métrages et des moyens-métrages, tout à fait de façon presque tellement underground qu'ils n'étaient jamais montrés. Et je ne savais pas que mon premier long-métrage allait même être vu et sorti en salle. Et c'était vraiment une des premières fois que j'étais exposée. Et ce qui m'a permis déjà de sortir aussi un peu du court-métrage, de pouvoir participer à des festivals, à repenser aussi ce qu'était le cinéma et l'agrandir. Et ce qui j'ai trouvé cette forme du long-métrage qui me correspondait aussi dans cette façon de construire plutôt comme des collages, ces films qui se font le son séparément de l'image. Et qui bon, ça a été une très très belle première à Berlin avec une très belle équipe et des retours qui m'ont donné aussi la force de continuer.
Alors Marie, il y a eu Berlin en 2011, il y a eu Cannes, la Mostra avec Peaches Goes Bananas. Cette sélection dans les festivals quand même les plus importants de la planète, c'est à la fois une visibilité, ça fait sortir l'underground au grand air, et comme les tortues du jardin ici, et en même temps, ça vous permet de pouvoir avoir des contacts, après plus peut-être de réseau.
Je pense pas trop au réseau, moi, dans ma vie, même presque jamais, d'ailleurs. J'essaye de construire les films au fur et à mesure avec les ingrédients qu'il faut. Mais c'est plus d'être exposé, de pouvoir comprendre un peu mieux la façon de construire des films qui me correspond, et puis aussi d'avoir une visibilité qui permet de continuer plutôt de fabriquer ce genre de films. Et quand je parle de visibilité, c'est plutôt les gens des festivals plutôt que contact en général, j'y pense jamais ça. C'est plutôt vraiment de continuer à travailler d'une certaine façon de construire ce cinéma, quoi.
Mais en même temps, d'être sélectionné dans ces festivals, ça vous permet d'être vu non seulement des professionnels et du public.
Oui, et je trouve ça important pour un cinéma qui est tellement artisanal, quelque part, d'avoir aussi une place dans le cinéma, peu importe ce que ça veut dire, que ce soit des gros films, films commerciaux, des films de tous les pays et que aussi le cinéma de l'avant-garde devienne aussi juste du cinéma et qu'on arrête de questionner justement ces cases, que ce soit docu, fiction, expé, etc. Et que ça, ça devienne juste du cinéma, point. Et ça, pour moi, c'est très important.
Vous avez mentionné dans la question et la réponse précédente que vous aviez une caméra qui n'enregistre pas le son. C'est particulier de faire ça pour une musicienne performeuse. Et comment vous avez travaillé sur ce plan-là, justement? Et ça fait plus de 17 ans, je crois, que vous utilisez cette caméra.
Bon, depuis 25 ans.
25 ans. Et donc sans son, donc sans le son est ajouté après.
Je dois dire que je n'ai jamais eu de formation. Je n'ai pas été en école de cinéma. Je n'ai pas du tout de formation technique. Et quand on m'a offert cette caméra lors d'une relation amoureuse qui s'est finie, ça a été un beau cadeau de fin d'amour.
Il y a un message, relation amoureuse sans son?
Non, mais c'est une jolie façon de le mettre. En tout cas, c'était aussi une caméra qui, à l'époque, à New York, était vraiment dans le milieu du cinéma d'avant-garde, une caméra comme un stylo qui permettait à tout ce milieu, qui mélangeait les médiums, que ce soit la poésie, la performance, de la littérature, de la musique, de fabriquer du cinéma de façon très indépendante. Et comme j'étais quand même bercée au sein de l'anthologie Film Archive, de Jonas Mekas, de tout un milieu du cinéma d'avant-garde de New York qui était particulier, cette caméra était aussi vraiment une caméra très banale quelque part et très utilitaire dans ce milieu. Il y avait beaucoup de pellicules, c'était pas cher à l'époque. Et c'était une façon pour moi d'apprendre à faire des films qui correspondaient, bizarrement sans le savoir, à une façon de dessiner, de penser le son, de penser l'image, et qui m'a permis de fabriquer un univers sonore qui en fait m'a orienté vers le cinéma et les portraits d'artistes musiciens, qui m'a complètement fascinée parce que construire le son d'une façon séparée de l'image m'a permis et de me focaliser sur l'image quand je filmais l'image sans avec une ouverture d'esprit qui donnait au personnage filmé toute liberté. Parce que quand on filme quelqu'un avec le son et l'image, il y a une sorte de timidité qui se met en place. Alors que quand on enregistre juste des histoires, il y a une vraie relation humaine avec la personne enregistrée qui aussi ouvre des portes. Et puis, au moment du montage, ça m'a ramené à quelque chose donc de l'art, plutôt du monde de l'art plutôt que du monde du cinéma d'un point de vue plus école peut-être ou plus connu, qui était de fabriquer tout l'univers sonore comme une bande musicale, une sorte de chorégraphie qui permet d'enregistrer des histoires, des sons environnants, de fabriquer du bruitage, de fabriquer des sons et de recréer un univers qui est beaucoup plus attaché à moi que le moment précis du tournage et qu'on colle à l'image obligatoirement. Donc d'élargir quelque part le côté émotif d'un film par le son plutôt que de ne pas y penser ou de le faire après coup. Parce que le côté, je trouve, merveilleux de la Bolex, c'est aussi que quand on filme et quand on regarde à travers le viseur, ce qu'on filme, c'est ce qu'on veut. Et on n'a pas toute cette idée et tous ces moyens de la post-production. Donc il y a vraiment une autre approche quand même aussi du cinéma, de l'image, du résultat, de la tension qui est mise en place au moment du tournage. Et je suis aussi toute seule à faire toutes les étapes du tournage, que ce
stages
soit...
Stages in English.
Ouais, stages, c'est pour ça que je pense en anglais plutôt qu'en français, mais c'est vrai que autant le montage que le tourné-monté, que l'enregistrement du son, le montage du son, tout ça, c'est une fabrication individuelle sans équipe, donc il y a aussi une part de proximité avec la personne filmée qui est très très forte parce qu'il n'y a pas d'équipe, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur autre que moi et la personne filmée.
Marie, avec tout ce que vous dites, ce que vous mentionnez, ça me fait penser qu'au-delà de l'art, il y a aussi le côté artisanal. Et cette façon de regarder dans le viseur, dans votre caméra Bolex, ça fait penser aussi à l'époque des appareils photo argentiques. On avait la pellicule, donc ce qu'on devait saisir, ça devait être le moment final aussi.
Oui, toujours. C'est-à-dire que ça met en place un moment où on doit penser vraiment et à la couleur, et au cadrage, et à la mise en place instantanée, comme un résultat final et non pas penser à toute la chaîne du cinéma qui est venue, qui est aujourd'hui plus présente pour moi dans mon cinéma, qui est la post-production et qui est merveilleuse aussi et qui m'a permis d'élargir et vraiment pour le coup de faire des progrès aussi au niveau du son et de l'image que j'adore. Mais qui n'était pas présente du tout au départ, et qui donc aussi oriente une façon de tourner, de penser le cinéma.
Et à propos de penser le cinéma, au niveau technique, vous utilisez la pellicule 16 mm, et ça vous permet peut-être un travail différent sur le grain de l'image déjà, peut-être aussi une intimité plus grande.
Il y a une profondeur de champ qui est différente, il y a une texture qui ressemble aussi beaucoup à mes dessins. La peinture, le papier, le grain, la colorimétrie qui est différente, et il y a un rapport tactile
plus organique
qui m'est très cher, puis venant de l'école, d'une école des beaux-arts en ayant passé par la peinture, qui m'importe. Et aussi quelque part, quand je vois un film, je sais tout de suite aussi s'il a été tourné en pellicule ou pas. J'ai un rapport d'amour à l'image. Après, ça correspond à mes films, mais ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre la vidéo. Je pense que justement, si le prochain film est lié à quelque chose qui correspondrait mieux à la vidéocaméra, je le ferai en vidéo. C'est-à-dire que c'est l'outil que j'ai pour l'instant, c'est celui qui correspond et qui est bien en harmonie avec le sujet, mais le sujet peut changer, la méthode peut changer, il n'y a pas d'opposition, mais c'est par contre mon stylo pour le moment.
C'est un stylo en tout cas qui vous convient à vos créations. Par rapport à Peaches, on sait maintenant que ça fait des années que vous la côtoyez, que vous allez à sa rencontre. Votre travail est lié aux rencontres en général. Là, il y a une dimension à la fois publique, on la voit en concert, il y a une dimension privée avec sa sœur, Souris, qui malheureusement n'est plus de ce monde. Et puis, il y a aussi une dimension avec sa troupe, sa famille artistique. Vous aviez accès à toutes ces dimensions sans limite, en particulier avec sa sœur. Vous avez dû discuter s'il y avait des choses à montrer ou à ne pas montrer.
Non, on n'a pas discuté. Ça s'est fait de façon harmonieuse avec le temps. Parce que comme toujours, le temps aussi permet la confiance, l'ouverture des portes et puis l'ouverture de situations. Qui se propose à moi. Et c'est vrai que la rencontre avec Souris s'est faite de façon très naturelle. Peaches m'a tout de suite emmenée chez elle. Et la relation que j'ai eue avec Souris était indépendante même de ma relation avec Peaches, et très forte. Quelqu'un d'assez extraordinaire et de très puissant. Et c'était important pour moi de découvrir un corps qui était le corps de Souris, qui a inspiré le corps de Peaches d'un point de vue physique, mais aussi musical, un corps orchestral, et d'opposer les deux corps pour aussi les comprendre mieux et parler des corps en général, les corps de famille, les corps individuels, les corps d'énergie, les corps de rage, les corps qui vieillissent, et qu'est-ce que sont ces corps tout en les aimant et leur donnant aussi une puissance de beauté. À travers l'évolution des corps aussi, qui est un sujet qui m'intéresse profondément tout le temps.
My goodness, you just know, you know my question in advance. Parce que c'était ma question, on ne va pas tout dévoiler du documentaire, mais le documentaire s'ouvre avec une voix, Peaches, qui questionne justement le rapport au corps. Et puis tout au long du documentaire, on voit que c'est une question aussi de le temps qui passe, le corps qui vieillit, comme vous dites. Ce rapport au corps, il est important dans votre travail.
Oui, toujours. C'est vrai que, par exemple, même le premier long métrage avec la balade de Genesis et les DJ, c'était des rapports d'échange carrément du corps d'un point de vue même chirurgie esthétique pour se ressembler, pour former une œuvre d'art. Le corps était aussi très présent dans le travail de Genesis Peaches, qui faisait de la performance, qui le tatouait, qui le transformait, qui est devenu masculin, féminin, qui faisait partie du cut-up d'une période aussi avec William Burroughs, de l'écriture de la troisième dimension, le cut-up. Ensuite, c'est suivi même le rapport au corps avec Cassandro de Exotico, qui est un catcheur de lucha libre, dont le corps était au service de son art, sur scène, sur le ring, et que justement, là, un corps aussi de gymnaste se transforme avec le temps et aussi très dangereusement se blesse. Donc c'est aussi le rapport effervescent de la puissance du corps, de la beauté du corps et de la transformation du corps, et le corps au service de l'art tout le temps. Et c'est vrai qu'avec Pitcheuse, il y avait cette rencontre qui a été faite à travers l'énergie du corps, la folie du corps, ce que ça donne sur scène, cette vibration. Et ça m'a rendu complètement zinzin quand j'avais la caméra de sentir cette vibration de vie à travers le corps. Quand elle est sur scène, Pitcheuse, d'un seul coup, c'est juste un lion en cage qui se déchaîne, un feu d'artifice. Et il y a quelque chose de très puissant que je voulais capter à un point de vue cinéma, comment retracer cette énergie à travers la caméra, en tout cas.
Et à propos de corps, même si je sais que dans Pitcheuse, il n'y a pas la temporalité, on reste, c'est pas précis de ce côté-là, on est libre d'interpréter. Mais à travers ce rapport au corps, cette étude du corps, on voit aussi qu'il y a quand même le côté éphémère, qu'il y a les changements.
Ah, le côté éphémère, il est dans toutes nos vies. C'est comme le côté éphémère d'un tournage aussi, d'une pellicule. Le corps, il change, il se transforme. Et justement, je pense que l'histoire, enfin, le cinéma raconte l'évolution, l'archive, l'évolution des corps en général dans la vie. Et pour moi, c'est important. Et le corps, c'est aussi une matérialité que le cinéma peut traduire d'un point de vue même tactile. Et c'était important pour moi de ne pas raconter l'évolution du corps de façon biographique, avec un début linéaire. C'est toujours important pour moi de mélanger le temps pour pouvoir se perdre dans le sujet du film plutôt que raconter quelque chose de très linéaire sur l'évolution d'un personnage, mais plutôt essayer de chercher à travers le mélange, l'intérêt ou le mystère du sujet du film, en fait.
Et ça donne plus d'aspérité à votre sujet, d'ailleurs, le fait de ne pas suivre de manière linéaire.
Bah, plus de liberté, en tout cas. J'aime bien mélanger les cartes.
Moi, j'y ai vu aussi une façon de montrer les personnes auxquelles vous vous intéressez avec plus de dimensions. Plus, il y a peut-être une rugosité chez ces personnes. C'est ça qui vous intéresse quand vous faites des rencontres. Vous dites, cette personne-là, il y a quelque chose qui accroche à la fois le regard, la caméra, et je vais m'intéresser à cette personne.
Oui, il y a souvent quelque chose de dur et de triste, de rugueux, de douloureux chez les personnages que je filme, parce qu'il y a cette puissance joyeuse, beaucoup d'humour chez tous ces personnages que je filme, mais l'humour existe parce qu'il y a la douleur, et l'humour existe parce qu'il y a eu une tragédie dans la vie des gens, et je pense que toujours c'est ça qui m'intéresse.
Et justement, je rebondis sur vos propos, l'humour permet de surmonter les épreuves de la vie.
Ah, toujours, je peux en parler pour moi-même.
Voilà, et donc les sujets qui vous intéressent ont à la fois souffert et ont la capacité, on parlera de résilience, mais ont la capacité d'en rire et de rire justement pour surmonter ces épreuves.
Oui, puis souvent je pense que l'humour c'est une des choses les plus difficiles à traduire et les plus difficiles à avoir. Et puis il y a humour et humour, mais ces personnages, tous d'ailleurs que j'ai filmés dans les courts-métrages ou longs, ont un humour qui m'emballe tellement, qui raconte la vie. Et c'est cet humour-là qui me permet aussi de continuer à filmer.
Oui, l'humour, comme vous dites, c'est difficile à l'avoir pour qu'il soit bon. Il peut être aux dépens des autres, alors que ces personnes-là ont de l'autodérision.
L'autodérision, je crois que c'est la clé de la force de la vie.
C'est si bien dit, Marie. Marie, pour revenir au film, j'imagine, en 17 ans, vous aviez tellement de pellicules, pas tant que ça ?
Pas tant de rush, parce que quand on tourne en pellicule, d'abord, les moyens sont limités pour moi. Et puis aussi, c'est très précis. C'est pas comme en vidéo où on peut tourner beaucoup plus longtemps. On se dit, ah, je vais choper quelque chose à un moment, je regarderai à la fin, je regarderai au montage. Là, c'est quand même assez précis. C'est plutôt au son qu'il y avait des kilomètres et des années d'écoute à traverser pour pouvoir trouver la ligne du film, donc surtout.
Donc c'est le son que vous avez dû taillader pour garder certains moments clés.
Oui, c'est vraiment comme de la couture. Pour moi, je l'associe souvent à la couture, c'est-à-dire qu'il faut chercher ce qui est vivable ou pas. D'abord parce que j'ai évolué en 17 ans, j'ai appris à mieux enregistrer le son, à mieux tenir la caméra, à mieux savoir ce que je voulais. Et donc, il y a des sons qui sont à trier parce qu'ils sont très mauvais ou parce qu'ils ont été mal enregistrés ou parce que le visuel a privilégié un moment sur le son ou l'inverse. Et donc, il y a un travail de dérush immense pour construire les couches du son qui vont permettre au film d'exister, parce que je monte toujours le son et l'image en même temps.
À propos de privilèges, vous avez pu vous consacrer aussi à Guy Maiden, qui était venu au cinéma Spoutnik avec Géraldine Chaplin. Oh yes, wow. Yes indeed. Et en fait, ces gens-là, vous permettez aussi au public de les rencontrer. Guy Maiden, ça s'est fait comment? Enfin, il y a d'autres personnes comme Vega, comme ça s'est fait.
Complètement par hasard. C'est toujours des hasards. C'est jamais moi qui vais les chercher. D'abord parce que je suis timide et puis j'ai horreur d'aller chercher quelqu'un dont j'aime le travail. Si la rencontre se fait de toute façon, de façon totalement inattendue. Et c'est ça qui rend la relation ou la rencontre possible pour moi. Complètement. Et Guy, c'était complètement par hasard parce qu'on s'était rencontrés à New York quand il sortait un de ses films au Film Forum. J'étais venue voir le film. Puis c'est quelqu'un de très généreux, très gentil et qui adore le cinéma d'avant-garde et qui a été embarqué dans un soir à nous rencontrer tous. Et puis on s'est liés d'amitié et en 2008, je crois, je ne sais plus très bien la date, mais la Berlinale a proposé ce qu'on fasse un échange de pellicules entre plusieurs réalisateurs et réalisatrices. Et Guy Maiden a été choisi pour moi. Pour que lui et moi fassions un échange de pellicules. Donc il devait tourner une bobine Super 8, me l'envoyer à New York, je devais la développer et faire un film avec, en l'incluant dans un film pour moi, en une journée. Donc ça a été vraiment un record d'envoi, de développement, d'inventer un film. Et puis j'ai fait ce
petit film. Et une émulation.
Ah oui, c'était très inspirant de découvrir qu'il avait filmé ses mains et que donc en découvrant ses mains, de façon extraordinairement belle, la façon dont il a tourné. J'ai fait ce petit film qui s'appelle Manual Labor, où je donne naissance à la main, à la fabrication, à celle qui tient la caméra, à la main qui est presque l'enfantement de la création.
La main de l'artiste et de l'artisan.
Ah oui, voilà.
Magnifique. Et vous parlez souvent de New York, évidemment. On lit dans votre biographie que vous avez étudié des études littéraires à Nanterre. Après, vous faites les Beaux-Arts à New York. Donc, deux villes, Paris, New York. La ville vous a façonné aussi dans votre façon de travailler?
J'ai grandi à la campagne. Et Nanterre, je faisais l'aller-retour campagne-Nanterre. Donc, je n'ai pas du tout connu la ville. Et quand j'ai eu la chance d'avoir, par mes études, un Erasmus, un échange à New York, je voulais toujours aller à New York. Je séchais les cours pour aller voir des films américains, rue des écoles, tous les films noirs, les comédies musicales, etc., les westerns. Et j'ai eu cette chance de pouvoir partir 6 mois en échange à Erasmus. Et en fait, je ne suis jamais rentrée. Je suis restée 23 ans à New York. Et j'ai complètement abandonné mes études littéraires. Et je ne savais pas que je pouvais avoir le droit, quelque part dans ma tête, de pouvoir être artiste. Et la vie a fait que, heureusement, que j'ai eu cet instinct de survie qui a été de peindre et d'aller en école des beaux-arts et de trouver ma voie, en fait, grâce à New York aussi.
Mais ce qui intrigue, vous avez mentionné l'école des beaux-arts. Tout à l'heure, vous avez mentionné la peinture, le dessin, le cinéma. Quand est-ce qu'il frappe à votre porte? Et comment?
Il est venu de façon très naturelle, sans que je le force non plus, parce que je pensais que c'était pas, que j'avais pas le droit quelque part. Enfin, je me donnais pas cette liberté de penser que je pourrais faire des films. C'est-à-dire que j'ai travaillé pour gagner ma vie pendant un an. J'ai travaillé pour un metteur en scène de théâtre qui a changé ma vie, qui est extraordinaire, qui n'est plus là tristement, qui est Richard Foreman. Et Richard travaillait son théâtre, l'Anthological Theatre, était à 3 minutes à pied de l'Anthology Film Archive, le cinéma de Jonas Mekas. Et c'est là que j'ai commencé à voir et à découvrir d'autres films, un autre cinéma que je ne connaissais pas du tout, le cinéma de l'avant-garde, le cinéma d'artiste. Et quelque part, le lien entre l'école des beaux-arts, le théâtre, le cinéma, tout s'est lié. Et j'ai vu Impossible, et quand j'ai rencontré par hasard avec cette caméra pour savoir comment m'en servir, j'ai rencontré Mike Kuchar, donc un réalisateur d'avant-garde dont le frère jumeau Georges Kuchar, les deux faisaient des films avec leur famille, leur mère, les amis, m'ont montré comment me servir de cette caméra. J'ai dit je peux faire un portrait de vous. Ils m'ont dit oui, bien sûr. Et puis j'ai commencé à faire un portrait qui a été sur Mike Kuchar, Bird Bath and Beyond. Le frère jumeau Georges m'a dit mais moi aussi j'en veux un. Donc ça a été Electrocute Your Stars, le film sur Georges Kuchar. Et sans me poser de questions, j'ai continué à filmer les personnes et les amis qui m'entouraient, qui m'inspiraient, sans savoir ce que je faisais du cinéma, mais des portraits qui ressemblaient quelque part à des tableaux, et à des tableaux vivants, beaucoup plus dans la lignée d'un Georges Méliès, mélangeant un cinéma d'avant-garde. new-yorkais, comme le faisait aussi à l'époque ce que je découvrais, les Kenneth Anger, une façon de, tout le cinéma d'avant-garde de Shirley Clarke, du cinéma de New York aussi.
Est-ce que Cassavetes a une influence aussi dans votre travail, ou est-ce que son cinéma vous parle?
Et bien sûr, ça fait partie des réalisateurs qui ont traversé mes découvertes. Je ne peux pas dire que ça m'ait influencé d'une façon directe, parce que lui, son cinéma, pour le coup, est beaucoup dans le dialogue, dans l'échange des acteurs et l'improvisation. Donc l'improvisation me parle, la caméra, la façon dont il utilise la caméra est merveilleuse, le huis clos aussi, mais on est loin, je suis loin d'un cinéma parlant et bavard comme le sien de cette façon-là. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va chercher l'âme et les émotions des relations amoureuses souvent.
Et filmer avec les moyens du bord, et surtout filmer ses proches.
Ah ben ça, c'est ça aussi une façon de chercher, de découvrir et de cadrer et de créer une famille aussi qu'on a choisie, une famille reconstituée. Surtout quand on est immigré dans une ville où on ne connaît personne, on a besoin de cette famille. Et le cinéma m'a permis de la construire.
Et par rapport au milieu underground de New York, ça vous a ouvert des portes aussi, parce qu'il est très développé par rapport à ce qu'on a en Europe.
Oui, et puis surtout, c'est un milieu que j'ai découvert, et c'est ce que j'aime sur ce milieu. Il est très étendu et divers, c'est-à-dire qu'il y a autant du cinéma structuraliste, très, très mathématique, très technique, et très dans une lignée intellectuelle. Et puis, il y a un cinéma expérimental extrêmement loufoque, performatif, qui a ses racines plutôt dans la performance, la danse et le théâtre. Il y a un cinéma qui est emprunt du cinéma hollywoodien et dérisoire, qui va aller vers plutôt les frères Couchard, John Waters et toute cette lignée-là. Donc, tout ça mélangé. Très amicalement. Donc il n'y a pas du tout ce cloisonnement. Et c'est vrai qu'il est... Parce que aussi New York était une ville où ce cinéma n'avait pas d'argent, où c'est une ville où il n'y a pas de soutien médical, social et artistique. Donc les gens sont très soudés. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de collectifs, on avait des ciné-clubs. Donc c'est un cinéma qui se fait autrement, avec beaucoup de bonhomie, beaucoup de générosité, de solidarité. Sans cette idée de festival, de compétition, d'argent. En fait, c'est ce que crée aussi l'argent. Après, c'est très très bien au niveau où j'y suis d'avoir vécu cette période de ma vie et d'avoir aujourd'hui une productrice qui essaye de m'épauler, de trouver, tout en gardant ma façon de fabriquer mon cinéma, de me donner un peu plus de moyens ou de possibles, et une évolution aussi dans la narration, de monter avec une monteuse qui est extraordinaire, à elle d'Alié Vega, d'avoir un tout petit peu de mixage, d'étalonnage, de visionnement, d'être un peu plus vue. Et donc soutenu. Et ça, c'est merveilleux de le faire à cette période de ma vie dans laquelle j'ai pu avoir cette liberté aussi complète. Même si j'étais vraiment, quelque part, c'est un cinéma pauvre. Mais c'était une vie joyeuse aussi.
Ça a l'air, en tout cas. Et puis, d'après les gens que vous avez rencontrés, et puis surtout ce que vous avez fait avec ces rencontres, on comprend que ça a été très enrichissant. Vous avez mentionné la solidarité parce que les gens sont guère soutenus. Est-ce qu'on nous a demandé votre opinion par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour le milieu, en tout cas artistique, culturel ?
Il est très complexe. On sait pas trop ce qui va devenir pour des gens qui font des films comme les miens, mais même des films plus soutenus, plus indépendants, on ne sait pas du tout si ça va continuer. Pareil pour l'art, ça fait horriblement peur ce qui se passe. Et dans l'éthique de vie, et dans la générosité, et dans le côté simplement humain des relations humaines, j'ai l'impression qu'on retourne en arrière. Et c'est flippant, j'ai vraiment très très peur.
Et de manière accélérée.
Oui, et puis sans avoir aucune pensée sur tout ce qui a été construit, l'humanité. Donc c'est violent, et la folie aussi la folie du nazisme qui revient un peu dans les pensées, l'homophobie, le racisme, la violence, parce que tout le monde a peur de
le
perdre.
Rejet de la différence.
Oui, qui se voit et qui se sent dans les relations au quotidien, même dans la rue. Et ça, c'est dur de le vivre. Et c'est dur de toujours croire en soi et de croire en ce qu'on fait, savoir si ça va continuer ou pas.
Mais vous gardez des liens très soutenus avec toutes les personnes que vous avez rencontrées à l'époque où vous étiez née.
Oui, je crois que c'est vraiment le seul moyen de continuer à croire en la vie. Et ce qu'on aime, c'est toujours d'être aimé et de continuer à aimer ceux qui nous entourent et d'être solidaire.
Pour revenir avec le film qui nous réunit aujourd'hui, Peaches Goes Banana, ce titre, il est très intrigant.
Ah, mais je l'ai adoré, je l'ai trouvé tout de suite, avant même de faire le film. Parce qu'en fait, j'étais à Peaches, Peaches, Peaches. Et puis, j'étais en train de manger un dessert avec Jonathan Cahouette, un ami très cher avec qui j'étais à New York, à Williamsburg. Et puis, on était là, Peaches, et il mangeait un banana split.
Of course.
Of course, et d'un seul coup, ça a fait tilt. Et on s'est dit, Peaches goes bananas. Et c'était... le titre du film avant même de vraiment construire le film et savoir qu'il existerait.
Jolie anecdote. Vous étiez, comme je disais en début d'entretien, au Giornate degli Attori à la Mostra, la dernière. Là aussi, ça a été, je pense, un beau moment, parce que la Mostra est un festival où il y a une atmosphère un peu, justement, des années 50 du cinéma italien. Et puis maintenant, le film sort dans plusieurs salles en Suisse. La Suisse, vous y êtes déjà un peu imprégné. Puisque vous êtes enseignante pour les premières années de cinéma à l'ED, il me semble.
Oui, alors maintenant, je suis pour la deuxième année.
Félicitations,
pour vous m'étonner. Merci. Et des suivis aussi, des diplômes de troisième année. Mais c'est une école qui m'est très chère parce que j'y suis arrivée sans le savoir il y a 8 ans. Pour faire un atelier Bolek, justement, remplacer quelqu'un. Et j'aime énormément cette école parce que c'est une école d'art au sein duquel il y a un département cinéma, d'où il y a une ouverture d'esprit et de fabrication qui me correspond et que je trouve aujourd'hui toujours aussi nourrissante pour ne pas aller que dans le côté, l'aspect productif et compétitif des écoles de cinéma. Et puis aussi, Genève permet un mélange aussi des cultures, un lieu qui m'a accueillie. Et c'est une ville donc qui me tient à cœur, un département qui me tient à cœur, avec beaucoup de changements quand même, et des équipes très chouettes. Et j'ai des liens très forts avec beaucoup d'étudiants et d'étudiantes avec qui je continue à correspondre.
Et quel conseil donnez-vous à ces étudiants qui se lancent justement dans le cinéma ?
Eh bien, de ne pas toujours faire des dossiers, de commencer si le film est là, et ne pas attendre de faire un dossier pour faire le film. Parfois, il faut commencer juste en travaillant et en faisant le film, et ensuite faire des dossiers. Et de ne pas penser que tout passe par d'abord la production, etc. Et s'il y a un sujet qui se présente à soi, il faut surtout sauter dessus, et ensuite chercher de l'aide.
Histoire de garder précieusement son idée, pour se la faire voler aussi.
Ah, bon, ça, j'y pense jamais. Je pense que, de toute façon, quand on a un sujet... Mmh. Bah, par exemple, Peaches, mon film, il y avait un autre film sur Peaches qui est sorti 6 mois avant.
Qui était
à Berlin. Voilà, donc je pense qu'il y a toujours 10 films sur les personnages qu'on rencontre et qu'il faut justement ne pas en avoir peur et juste faire le film qu'on doit faire soi-même, qui sera jamais le même que celui d'un autre.
Et là, vous avez mentionné votre rapport avec l'école LED, avec le cinéma. Par contre, il y a quand même une scène petite, certes, mais une scène underground. Elle était importante il y a 30 ans à l'usine à Genève. Maintenant, c'est plutôt Berne ou Zurich. Et puis, il y a la scène underground de Berlin. Vous y avez goûté ?
Oui, j'ai toujours été attirée ou rencontrée par hasard. On se rencontre toujours quand on aime quelque chose en commun, on rencontre les autres. Donc, quand je suis arrivée de New York en 2013, j'ai passé un an et demi à Berlin. Donc, bien sûr, j'ai tout de suite rencontré une partie de la scène berlinoise. Et puis, de là, on rencontre toujours la scène d'un autre pays et tout se ramifie. Donc, ici, en Suisse, pas trop. Parce que
c'est la Suisse allemande.
Voilà. Et j'ai pas eu accès à ça aussi parce que je viens et je repars. Donc, je suis surtout maintenant basée à Paris, où j'ai rencontré une autre scène expérimentale. Après, personnellement, j'aime jamais appartenir à une scène ou un milieu parce que ça réduit pour moi la pensée ou ça réduit la fabrication. J'aime bien juste être sans avoir à me questionner sur quel milieu, quelle forme.
Et vous retournez de temps en temps à New York?
J'y suis retournée plein de fois, bien sûr, parce que j'ai quand même 30 ans d'amitié qui continue avec beaucoup d'amis. Par contre, ça a tellement changé. Et ça fait tellement peur ce qui se passe aujourd'hui que j'ai beaucoup de mal. Ça fait 4 ans et demi que je ne suis pas retournée. Et je vois combien mes amis proches souffrent de la situation et la difficulté financière qu'ils ont à pouvoir continuer à être artistes dans cette ville, quoi.
Oui, un autre fléau, c'est les gens aussi d'un milieu peut-être déjà défavorisé qui sont dans le crack parce que justement il n'y a pas de soutien financier, vous le disiez. Oui, ça touche tous les États-Unis.
Oui, après, New York, c'est toujours à part parce que c'est vraiment une ville de gauche. C'est une ville d'immigrés, très européenne et très collaborative, associative. Donc, il y a quelque chose qui reste très combatif à New York et très ouvert.
Open-minded.
Oui, je me sens toujours bien quelque part parce qu'il y a vraiment une énergie qui reste la même. Mais comme toute chose, on évolue soi-même et puis les villes évoluent et donc les gens disparaissent. D'autres arrivent, on ne les connaît pas. Donc, parfois, on est un peu en porte-à-faux avec les villes dans lesquelles on a grandi ou dans lesquelles on s'est formé.
Et Peaches, que pense-t-elle du résultat de Peaches Goes Bananas?
Elle était très heureuse, très touchée. Elle a pleuré plusieurs fois. Elle pleure encore quand elle voit le
film. Très émotive.
Très émotive. Et elle soutient profondément le film. Donc, c'est une belle amitié, une belle aventure.
Est-ce que Marie, on ose vous questionner sur vos projets? À part accompagner Peaches Goes Bananas maintenant.
Oui, et bien là, alors je fais l'inverse de Peaches. Au lieu de 17 ans, ça sera peut-être 4 semaines. Alors je n'ai jamais fait ça, ce qui est quand même chouette parce que ça veut dire que je suis face à quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc ça fait peur et c'est excitant. C'est un portrait sur le processus créatif d'une pièce chorégraphique d'une grande danseuse et chorégraphe que j'adore, capverdienne, qui s'appelle Marlène Monteros Freitas et qui prépare une nouvelle pièce pour l'ouverture du Festival d'Avignon. Donc avec toute la pression que ça met en place.
Pour cette année.
Pour cette année-là.
D'où les 4 semaines.
Voilà. Donc je ne sais pas comment ça va se faire ou ne pas se faire, mais en tout cas c'est parti. Et je suis très 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 excitée de cette mise en place, de comment je vais y arriver ou pas. Et puis depuis 4 ans, mais alors là il faut que je m'y remette, j'ai pas eu une minute à moi. Je suis en train d'écrire une première fiction qui est une comédie musicale. Voilà.
Être musique expérimentale ou...
Non, c'est des mélanges de musique que j'aime, bien sûr, et j'en suis encore. Et c'est là qu'on se rend compte, c'est tellement difficile de faire une comédie musicale. Ça a l'air facile, pas du tout. Est-ce que c'est un musicien qui chapeaute toutes les musiques? Est-ce qu'il y a une diversité? Comment on fabrique la musique? Est-ce qu'elle est au sein de l'écriture même des dialogues? Enfin, il y a mille et une questions sur la musique. Et comme j'aime diverses musiques qui s'entrelacent, c'est encore très complexe. Tout ça mélangé à la danse, tout ça mélangé à la campagne, à l'addiction au sucre. Ça s'appelle Sugar Bomb.
Wow, melting pot. Bah, merci beaucoup, bon succès pour Peaches Goes Bananas. En Suisse et ailleurs, en France, en Navarre et au-delà. Et puis parabens pour les 4 semaines là pour
Merci. C'est
au Cap Vert.
Oui,
merci Marie.
Ça sera à Avignon, donc voilà.
Alors allons à Avignon. Et en attendant, allons au cinéma voir Peaches.
Merci beaucoup.
Merci,
belle
Marie.
Question.
Merci.